J'aimerais ce matin, en guise de message, peut-être partager quelque chose que j'ai eu à cœur, parce que j'ai rencontré pas mal, depuis un petit temps, des personnes qui m'ont contacté pour des situations diverses auxquelles ils étaient confrontés à titre personnel dans leur vie. Et c'était quand même beaucoup de gens. Et ça m'a fait réfléchir à cette réflexion que j'ai fait déjà il y a longtemps. Et je me suis dit, je vais partager peut-être un encouragement ce matin. Un encouragement à nous tous. Parce que dans la vie de chrétien, parfois, on passe par des situations qui sont parfois très dures, très difficiles à gérer. On est parfois bousculé par toutes sortes d'épreuves, des pressions, parfois des déceptions, des échecs, des imprévus. Et peut-être la question, c'est comment réagissons-nous devant ces choses qui viennent contraindre notre vie? Comment réagissons-nous devant ces situations qui viennent un peu déranger le vécu quotidien de notre vie, la quiétude de notre vie, la tranquillité de notre existence? Comment réagissons-nous et comment le faire en restant chrétien, c'est-à-dire enfant de Dieu, en restant ancré dans les valeurs chrétiennes? Vous savez, si quelqu'un m'insulte en tant que chrétien, je ne devrais pas répondre. Oui ou non? Non. Oh, on avait parlé là-dessus. C'est comme si je parle aux gens qui me disent, attends toi, tu te fais insulter, toi tu dis rien, toi. En tant que chrétien, si je suis ancré dans les valeurs chrétiennes, on m'insulte, je ne dois pas répondre. On me fout une barre par là, je ne dois pas remettre. Ça, c'est les valeurs chrétiennes. Hein? Je ne sais pas moi, quelqu'un vient, il vous fait vraiment des trucs, mais des trucs vraiment, 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 vraiment pas bien. Mais en tant que chrétien, vous ne devez pas remettre le mal par le mal. Oui ou non? Voilà. La question, c'est ça. C'est comment réagissons-nous en restant braqués dans l'accès, assis, ferme dans nos valeurs chrétiennes. Alors, il y a un homme dans la Bible, et on va un peu voir comment lui réagit face aux situations auxquelles il était confronté. Peut-être ça pourrait être un enseignement de vie pour nous, pour aussi prendre attitude par rapport à nous-mêmes. Je pense que cet homme pourrait nous aider. Vous savez que j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Je ne sais pas si vous savez, mais enfin je vous le dis, j'aime beaucoup l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a quelques personnages que j'aime énormément. Et il y a le premier de tous, c'est évidemment, pour moi, c'est Abraham. Hein? Ça, je le kiffe, mais très fort. Quoi. Hein? Et puis ensuite, il y a Moïse, personnage très, 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 très impressionnant. C'est l'équivalent de l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. J'ai failli dire des monstres sacrés. C'est des gens énormes. Et puis, il y a aussi un personnage que j'aime tout particulièrement. Il s'appelle David. Pas toi, hein. Enfin, je t'aime bien aussi, attention. Hein. Mais c'est David de la Bible. Hein. Oui, je t'aime bien aussi, petit. Le petit David, oui, je t'aime bien aussi. Mais je parle David de la Bible, ça va? Ouais. Alors, j'aime bien le roi David. C'est un de mes personnages préférés parce que, d'abord, évidemment, il y a bien sûr le fait que c'est l'ascendant de Jésus-Christ, bien sûr. Jésus est né, évidemment, dans la dynastie, dans la suite dynastique de David. Mais je l'aime bien aussi parce que c'est un homme extraordinaire. Il a tout connu. Il a connu des joies, il a connu des larmes. Il a connu des victoires, il a connu des échecs. C'est un homme qui a connu les honneurs et qui a connu les humiliations. C'est un homme qui a connu l'exil. C'est un homme qui a été poursuivi par son propre fils, qui l'a mis dehors du pouvoir. C'est un homme qui a connu des tas de choses. Mais la Bible dit que Dieu a toujours considéré David comme l'homme selon son cœur. C'est quand même frappant, une somme de temps et contradictions. Mais Dieu le considère comme l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce que, me semble-t-il, une façon à lui de réagir était plaisait à Dieu, était conforme à la volonté de Dieu. Dieu aimait comment il réagissait face aux situations diverses auxquelles il a été confronté. Je pense que ça fait partie des choses pour lesquelles Dieu trouvait que David était l'homme selon son cœur. Il réagissait toujours correctement. Je prends juste cette scène où David est en train de fuir son fils Absalom. J'aime beaucoup cette scène. Je m'imagine réalisateur d'un film en train de mettre ça en œuvre. David est en train de fuir son fils. Il y a là un individu qui s'appelle Shimei qui lui court après en lui disant « Oui, c'est Dieu qui te punit, tu es maudit par Dieu, c'est pour ça que ton propre fils prend ton royaume, etc. Tu as tué Saul et Jonathan, son fils, tu as arraché le royaume à ces gens-là, etc. etc. » Mais c'est faux, hein, c'est archi faux. Donc ce type, il raconte n'importe quoi. Et puis il y a le général Joab, un bon général, fidèle à son roi, qui dit au roi, tu veux pas que j'aille lui couper un peu la tête? Et il dit, non. Tu sais pas, si peut-être que cet homme-là, qui sait si c'est pas Dieu qui l'utilise pour m'enseigner quelque chose? Ne le touche pas, laisse-le. Je fais waouh, parce que tout roi que je suis, hein, avec un pouvoir comme je l'ai, avec des bons généraux qui m'obéissent au doigt et à l'œil, ils m'embêtent beaucoup. Je dis rien, hein. Signe de la tête, hein. Et puis, quick, on lui coupe la tête, c'est rien. Non, il va pas réagir comme ça. Et j'aimerais ce matin peut-être que partager un peu dans l'expérience de David. Parce que David n'était pas un homme parfait. Il n'a pas fait que des erreurs, mais il n'a pas fait que des bonnes choses toujours. Et au moment des crises qui l'ont secoué, David a souvent réagi d'une manière incroyable, d'une manière conforme à la volonté de Dieu. Alors je vais proposer trois circonstances de la vie de David ce matin où on va voir comment il réagit. Trois faits de son histoire. On va se balader un peu dans la Bible, hein, dans l'Ancien Testament, bien sûr, à travers ces trois faits, mais vous allez voir que ce sont des faits qui vont ensemble constituer un tout pour nous emmener ce matin à réfléchir comment réagir face aux diverses situations qui nous secouent dans la vie. Première circonstance, première situation, c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 30. Là, on relate l'histoire, tu vas mettre ça après. Garde ça, il faut pas qu'il lise un secret. Chapitre 30, 1 Samuel. Ah voilà, encore un autre Samuel qui est là. Bonjour Samuel. Voilà. Alors, au premier livre de Samuel, au chapitre 30, on relate l'histoire de la destruction d'une ville qui s'appelle Tiklac. Et cette ville-là a été détruite par un peuple que on connaît bien dans la Bible comme un ennemi juré d'Israël, qui s'appelle les Amalek. Donc les Amalécites ont détruit cette ville. Or, cette ville-là avait été donnée par les Philistins à David. Alors, donc, c'est une ville qui avait été donnée par un chef qui s'appelle Achish. C'est le chef qui a donné à David. En fait, voilà la petite histoire. David, sous le roi Saul, a passé des très 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 mauvais moments. Le roi Saul était terriblement jaloux de lui et il voulait le tuer. Donc à un moment donné, David n'avait pas le choix, il s'est enfoui. Et il est devenu un peu comme un chef de mercenaires. Voilà. Et donc, il commençait à rendre des services aux autres nations, moyennant du pain, un peu d'endroit pour dormir, vous comprenez. Il était en exil de son pays d'origine, parce que là, on l'a chassé, et on lui a donné un ordre que s'il arrive là-bas, on le tue. Et donc, il est parti, et il a commencé à donner un coup de main aux ennemis, aux Philistins. Et il faisait ça tellement bien, que le général philistin lui a dit, je te donne une ville. La ville de Tiglat, c'est ta ville à toi, avec tes gens. David était entouré à peu près de 600 hommes, dont 600 hommes, ça veut dire 600 familles, donc qui étaient avec lui, et il vivait là, dans cette ville-là. Mais il s'est passé un drame. Il s'est passé un drame, c'est que les Amalécites ont pillé cette ville-là, ils l'ont incendiée, et ils ont tout détruit de cette ville-là. Et ils ont pris avec eux tout ce qu'il y avait là-bas. Cet événement s'est passé alors que David n'était pas là, il était absent avec sa troupe. Évidemment, pour les Philistins, ils considéraient que c'était une trahison de la part de David. Ils ont considéré que David a laissé volontairement cette ville-là, qui était la ville des Philistins. C'était juste un prêt qu'on lui a donné, enfin une ville qu'on lui a donnée pour qu'il puisse y être à l'aise. Ils ont cru qu'il a trahi en quelque sorte les Philistins à la faveur des Amalécites. Et donc, tous ses amis, ceux qui ont toujours été ses amis, c'est-à-dire les Philistins, eh bien, ils étaient tellement fâchés contre lui. Ils ont même parlé de le lapider, tellement ils étaient fâchés contre lui. Le voilà qui se retrouve avec ses meilleurs amis qui se retournent contre lui et qui le détestent à mort. Quelle situation désagréable, n'est-ce pas, mes amis? Vous avez, quand on est déçu des amis, quand on est déçu des ennemis, un ennemi me fait du mal, ok, j'encaisse. Mais quand c'est un ami, quelqu'un que j'ai considéré comme un ami, et qui se retourne contre moi, et qui m'en veut à mort, ça fait une grosse déception. Ça fait, on se sent trahi, on se sent abandonné. Ça fait mal. Et ce qui est plus grave encore, c'est que dans cette histoire, David n'est pas seulement celui qui est entre guillemets bénéficiaire, puisqu'il va en guerre, d'accord, avec ses 600 soldats, d'accord, mais les familles de ces soldats, sa propre famille, elle est restée. Donc comme on a tué les gens, on a tué aussi les gens du côté de David aussi. Peut-être aussi ses proches de la famille aussi. Mais les Philistins ne voient pas ça. Ils voient que la trahison. Et David aurait pu se fâcher. Il aurait pu dire, écoutez, moi j'en ai marre avec vous les Philistins. Allez, maintenant on va se battre. Je vais vous tuer par l'épée, je vais vous faire n'importe quoi. Il aurait pu se fâcher. Il aurait pu aussi ruser contre eux. Il aurait pu faire tout un tas de choses. Mais comment réagit-il face à une telle adversité? Je propose de le lire, notre petit secret. Maintenant on peut le montrer. 1 Samuel, chapitre 30. On va lire juste 3 versets. Vous voyez, j'ai pas envie de vous faire balader dans toute l'histoire. Hein. C'est pour ça que je vous la raconte et puis on prend juste les thèmes qui nous intéressent. Verset 6, David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. On comprend, les Philistins sont fâchés parce que ce sont les leurs qui sont morts. Mais David reprit courage, comment? En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur, deuxième chose qu'il va faire, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc les fautes. Abiathar apporta les fautes à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Très intéressant. Que fait David? Au lieu de régler ses comptes à juste titre, il aurait pu dire, écoutez, moi je suis innocent de cette histoire, et laissez-moi tranquille, et il peut se défendre. Mais que fait-il? Il se remet à Dieu. Il puise son courage pour continuer dans le Seigneur. Il cherche ses solutions dans le Seigneur. Au lieu de régler ses comptes, il se tourne vers Dieu. Peut-être c'est là aussi une question pour nous. C'est une situation très grave ici. Je suis trahi par mes amis. Je suis trahi par les gens en qui j'avais confiance. Je suis trahi, je suis accusé innocemment pour quelque chose que je n'ai pas fait. David ne m'a pas trahi. Qu'est-ce que je réagis? Comment je réagis? Je me défends. Je commence à me justifier. Je commence à me battre, à me défendre. Quand si je suis plus fort, j'essaie d'user de la violence pour mettre fin au problème. Non. David, il va vers le Seigneur. Il va prier. Et non seulement il va prier pour avoir la paix, mais il va se tourner vers Dieu pour savoir quelle solution je dois envisager dans cette situation. Il se tourne vers Dieu. Même à l'égard donc de ses ennemis, David reste un homme correct. Vous vous souvenez? Lorsque le roi Saül et son fils Jonathan sont morts, justement tués par les Amalécites, encore une fois, est-ce que David s'en est réjoui? Non, non. Il a composé même une chanson, une complainte de deuil, pour les pleurer. On ne fait ça qu'avec les gens pour qui on a de la considération. Et vous savez, David, c'est quelqu'un qui fait vraiment comme Dieu lui demande. Parfois, nous devons aussi prendre exemple sur ce modèle. Je vais vous montrer en quoi est-ce que ce que David fait est vraiment conforme à la volonté de Dieu. Proverbes chapitre 24. Nous allons voir le verset 17 et 18. Regardez. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, et que cela ne lui déplaise, et qu'il détourne de lui sa colère. Dieu n'aime pas qu'on soit content des malheurs des autres. Il n'aime pas non plus qu'on pousse les autres vers des malheurs. Dieu veut que nous puissions simplement recourir à lui et que lui nous donne la ligne de conduite à faire. Deuxième circonstance de la vie de David. Nous changeons de cap. Premier livre de Chroniques. Eh bien, dans cette histoire, peut-être que nous connaissons cette histoire avec David était préoccupé par le fait de construire le temple de Dieu. Il voulait ça. Mais Dieu lui a dit, c'est pas toi qui vas le faire parce que tes mains sont tachées de sang. Vous connaissez le boulot de David, c'était quoi? Dans le plan de Dieu. J'espère que vous aimez bien regarder la Bible comme une fresque comme ça, comme un gros plan comme ça. Non, vous n'aimez pas ça, vous? Moi, j'aime ça, je kiffe ça. Et vous remarquerez que dans le plan de Dieu, Dieu avait dit avec Abraham, je ferai de toi une grande nation. Premier élément, il a fait le peuple avec Jacob. Deuxième élément, avec Moïse, la loi. C'est ça qui constitue une nation. Troisième élément, c'est le territoire, la terre promise. Et qui avait cette charge? C'était... Non, le premier, c'était pas lui. C'était qui? Josué! Ah, vous saviez, mais vous hésitiez, là, d'accord. Je vous excuse. Josué! Mais malheureusement, Josué n'a pas réussi. Et c'est pas sa faute, hein. Mais il n'a pas réussi. C'est pour ça, d'ailleurs, que vous savez, cette fameuse phrase, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous la lisons comme une affirmation, je dis, positive. Mais en fait, c'était un coup de colère, un coup de je n'ose pas dire le mot, mais vous voyez quand quelqu'un se... Voilà, c'est pour ça qu'il a dit ça. Parce que il ne voulait pas, les gens, chaque nation, chaque tribu, une fois qu'il avait son territoire, ben, trouver des bonnes excuses pour aller aider les autres tribus à conquérir les leurs. Conséquence, ils sont tombés comme ça. Et pendant plus de 400 ans, nous tombons dans le temps des juges où c'est la pagaille et le désordre en Israël. Mais celui qui termine ce travail-là, le terminator de l'histoire, eh ben, c'est le roi David. C'est celui qui va faire le boulot de Josué. Et donc, mais ce boulot ne va pas se faire dans la dentelle, ça ne va pas se faire gentiment, puisque vous comprenez que le peuple d'Israël, malheureusement, s'est tellement souillé et tombé dans l'idolâtrie. Donc, le roi David devait vraiment frapper fort les ennemis. Et c'est vrai qu'il en a pas mal tué. Et Dieu dit, mon ami, toi, le temple, c'est ton fils qui le fera. Toi pas. Mais, c'est un homme qui voulait vraiment faire cela. Et il voulait ne plus qu'avoir l'arche de Dieu avec. Dans cette histoire, c'est l'épisode où David fait ramener l'arche de Dieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il le fait ramener à Jérusalem. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'arche de Dieu avait été absente pendant 80 ans. Les bandits des Philistins l'avaient confisquée, l'avaient pris, en se disant, s'ils n'ont plus l'arche, ils sont sans force, s'ils n'ont plus la présence de Dieu. On pourrait les massacrer comme on veut. Et là, ils vont, malheureusement pour eux, vivre quelque chose de très dramatique, parce que l'arche va leur faire des mauvaises blagues. Ils vont tomber malades, là-bas, et les Philistins, ils vont être tellement malades qu'ils vont essayer de discerner d'où vient la cause de toutes les souffrances qu'ils ont. Ils vont comprendre que c'est cette tâche qu'on a. Alors ils vont le pousser tout doucement à la frontière avec Israël. Comme ça, les Israélites, oh, l'arche est là! Et ils vont courir pour venir le chercher. Mais David va commettre une erreur. Il va commettre une erreur parce que, en essayant de le ramener, il va demander à son serviteur Uzza d'aller le faire. Mais l'arche est sacrée. Seuls ceux qui sont consacrés à cela, c'est-à-dire les Lévites, peuvent toucher à l'arche. Et encore, dans les Lévites, la lignée d'Aaron. Et là, Uzza, c'était pas le serviteur qui était dans cette lignée-là, et lui, il va mourir, malheureusement, en essayant de guider l'arche, etc. Et David est déçu de cet échec-là, mais il a encore, une fois de plus, un bon réflexe. Comment il réagit? Il réagit en allant encore vers Dieu. Nous allons lire le texte avec 1 Chronique, chapitre 15, verset 12 à 15. Il leur dit, « Vous êtes les chefs des familles lévites. Sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche éternelle du Dieu d'Israël. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel notre Dieu nous a frappés. Car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. Les sacrificateurs et les lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils de Lévite portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. C'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'ils n'avaient pas fait avant. Et c'est à cause de ça qu'ils sont tombés dans la réaction des dieux. Comment est-ce que nous réagissons quand nous faisons quelque chose pour Dieu et que ça ne marche pas? On veut vraiment vivre pour Dieu. On veut faire plein de choses pour Dieu, mais ça ne va pas. Est-ce que cet échec nous remplit d'amertume? Déception qui nous emmène à nous dire, j'en ai marre? Ou bien nous réagissons comme David? Est-ce que nous sommes prêts à reconnaître nos erreurs et à les corriger lorsqu'on a mal agi? Parfois, certains choix qu'on peut prendre pour Dieu, je sais pas, il y a des tas de choses qu'on peut faire en se disant, je fais ça pour Dieu, je fais ça en pensant que ça va glorifier Dieu. Je sais pas si c'est un exemple, parce que c'est comme ça, me dit, mais ah, tu me vises, hein. Donc, je vais pas donner des exemples, mais il y a des tas de choses que nous pouvons faire en décidant que voilà, je fais pour Dieu. Mais je me rends compte que je me suis trompé. Et puis, je fais quoi? Lorsque je me suis trompé. Est-ce que je reconnais mes erreurs? Je les confesse et je restaure la situation comme il faut? Je la remets à la place? C'est une manière de réfléchir. Troisième circonstance, dernière circonstance de la vie de David, c'est aussi quelque chose que nous connaissons. Vous savez que David, c'est un homme qui aimait beaucoup les femmes. C'est probablement aussi un de ses gros, gros défauts. Et un jour qu'il était en train de ne pas partir à la guerre et qu'il était en train de rester chez lui à la maison, il a regardé dans le balcon à côté là-bas une belle femme qui se lavait. Et il s'est dit, c'est qui cette femme-là? On lui a dit, mais c'est la femme de ton mercenaire, là, le général Uri. Ah, elle s'appelle comment cette femme? Ah, elle s'appelle Bathsheba. Ah, mais qu'est-ce qu'elle est belle cette femme? Bah, forcément, mon ami, tu es en train de la regarder en train de se laver. Enfin bref, je n'ai rien dit. Bon. Et, ce qui ne devait pas arriver arrive. Le voilà qui s'acoquine de cette femme et il en fait sa maîtresse. Et puis, vous savez que Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, écoute mon ami, tu es en train de faire des bêtises. Et le prophète Nathan, mais il faut lire ça, c'est très beau. Il faut le lire. Nathan va user de stratagèmes pour l'emmener à prendre conscience que c'est de lui qu'il s'agit. Hein, parlant d'une histoire des moutons, etc. Enfin bref, bon. Et David prend conscience qu'il a péché contre Dieu. Malheureusement, dans cette situation, la femme est déjà enceinte. Elle a un enfant, David. Et Dieu lui annonce, cet enfant-là va mourir. David, il rentre en prière, il se met à prier Dieu, en disant, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais cet enfant qui vient au monde, pourquoi doit-il mourir? Il n'y est pour rien, Seigneur. Il n'y est pour rien. Moi, oui, mais l'enfant, Seigneur, il n'y est pour rien. Et il se met donc à prier pour cela. Pendant 7 jours, il va jeûner et prier pour chercher vraiment la volonté de Dieu, la face de Dieu. Et malgré toutes les supplications, l'enfant va quand même mourir. Comment réagit-il? Il aurait pu dire, Seigneur, j'ai jamais prié pendant si longtemps, je suis mort de faim à cause de ça, et puis j'ai prié, j'ai fait du travail, je me suis... Mais alors Seigneur, c'est injuste, c'est dégueulasse, pourquoi tu ne m'as pas écouté? Pourquoi tu ne m'as pas? Et je sais. Est-ce que c'est cela que David fait? Non. Regardons 2 Samuel 12, verset 20. C'est ça que je t'ai donné, hein? Eh ben vas-y. C'est ça? Ah! Alors, une fois que David va apprendre que cet enfant est mort, que fait-il? Au verset 20, 2 Samuel 12, 20. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit, ça veut dire qu'il fait sa toilette, etc. Changeant de vêtements, et il alla où? Il alla où? Dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il y fit? Il se prosterna. Vous comprenez ce qui se passe là? Il est déçu de ce que l'enfant n'a pas. Il n'est pas resté en vie. Il peut dire aussi qu'il est déçu de tous les efforts qu'il a fait pour convaincre Dieu en suivant ce que la loi demande qu'on fasse dans ces circonstances-là. Il pouvait en vouloir à Dieu. Non. Non seulement il se lève, il va dans la maison de Dieu, mais il s'y prosterne. Se prosterner, ça veut dire « Je reconnais que tu es souverain. Je reconnais que tu es le Seigneur qui a droit sur ma vie. Tu es mon Seigneur. Je m'incline devant toi. Je suis ton sujet. Tu fais de moi ce que tu veux. » C'est ça que ça veut dire. Un roi. Il se prosterne parce qu'il reconnaît la volonté de Dieu. Il accepte la volonté de Dieu. Il accepte le plan de Dieu sur ce qui lui arrive. Il aurait pu être rempli d'amertume, mais ce n'est pas ce qu'il fait. Il aurait pu regarder son investissement. Non. Il va adorer Dieu. Combien de chrétiens dans une telle situation auraient tout simplement lâché plutôt leur amertume, leur colère, leur déception. Combien auraient même perdu leur confiance en Dieu. Oh, ce Dieu-là, il n'écoute jamais. Ouh, moi, j'en veux plus. Combien auraient, ne seraient jamais partis dans le temple, aller adorer Dieu. Pourquoi? Alors qu'ils n'exaucent pas les prières. Alors, que faisons-nous? Que ferions-nous dans ces situations-là? Quand Dieu ne répond pas à nos prières, nous prions, 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 Dieu ne répond pas! On fait quoi? On se fâche contre Dieu? Ou on continue, on persévère toujours et toujours à l'adorer? Est-ce que ça change quelque chose, le silence de Dieu ou la réponse négative de Dieu? Ça change quelque chose à la nature de Dieu? Dieu reste Dieu. D'ailleurs, c'est injuste de notre part de nous fâcher contre Dieu. Parce que, comme dirait Carmen, compte les bienfaits de Dieu. La suite, c'est quoi encore? Compte les bienfaits de Dieu et puis? Mets-les tous devant tes yeux et puis tu fais quoi? Tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. On peut dire tout ce qu'on veut, même quand Dieu ne nous exauce pas, quand je regarde la somme de tout ce que Dieu fait pour moi, Dieu fait toujours beaucoup plus pour moi. Que faisons-nous quand Dieu ne nous exauce pas? Que faisons-nous pour réparer nos erreurs? Où allons-nous pour rechercher les solutions à nos erreurs? David va aller vers Dieu. Alors, je vais terminer. Je vais conclure. Dans nos problèmes les plus graves, comme dans les problèmes les plus simples de la vie, soyons comme David. Ayons le réflexe de maintenir la communion avec Dieu, même si nous sommes confrontés à des choses qui nous font perdre la confiance en Dieu. Gardons le cap, gardons la confiance en Dieu, gardons la communion de qualité avec Dieu, même si c'est des choses qui bousculent complètement même notre foi. Gardons cette confiance, cette communion. Maintenons cette communion avec Dieu. En agissant ainsi, nous donnons la gloire à Dieu et nous manifestons que nous sommes des chrétiens, des enfants de Dieu, des enfants qui aiment Dieu. Vous savez, dans les 4 points que Calvin avait développés sur la pensée calviniste, il y a le dernier point qui s'appelle la persévérance des saints. La persévérance des saints, ça veut dire un vrai chrétien, il va aller jusqu'au bout. Quelles que soient les difficultés, jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, comme dans les mauvais jours. Et à travers l'exemple de David, nous voyons cette exhortation-là. Que ce soit quand nos amis deviennent nos ennemis, nous abandonnent, nous trahissent, nous déçoivent, ou quand on subit un échec dans l'œuvre de Dieu, alors qu'on veut de tout son cœur, de bonnes intentions, faire quelque chose de bien pour Dieu, et que ça ne se passe pas comme il faut, ou quand notre prière n'est pas exaucée comme nous l'avions demandé, ou dans bien d'autres circonstances. Allons vers Dieu. Cachons-nous en lui. Trouvons en lui les ressources nécessaires pour surmonter cette épreuve et surtout, gardons le cap avec Dieu. Amen. Prions. Seigneur, viens nous en aide afin que, par ta grâce, nous soyons ces chrétiens qui t'aiment par-dessus tout, par-dessus toutes sortes d'épreuves par lesquelles on peut passer, qui gardent toujours cette communion avec toi, qui maintiennent toujours cette persévérance à t'aimer, à t'honorer, à te glorifier, à te respecter. Aide-nous à être ces chrétiens-là. Merci. Merci de nous aider. Merci de nous conduire dans cette dynamique-là aussi. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.